Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille 29.
Salut Raph.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Très bien. Je sais jamais si on dit 29, 29.
Tu l'as bien dit. En fait, ouais, je sais qu'il y a ce petit truc-là. Les gens confondent. C'est 29.
Ouais.
Et en fait, Dinos, le tag qu'il a fait, c'est Bentinuebe.
Eh oui.
Et les gens entendent Bentinuebe.
C'est son côté fan du Real de Madrid. Ouais. C'est pris déçu, en fait. Et du coup,
c'est ça, exactement.
Ouais, Bentinuebe. Ouais. Mais jamais 29.
Si, il y a des gens qui m'appellent 29, c'est marrant. C'est le truc marrant, en fait, tu vois.
C'est devenu une private joke entre potes.
C'est ça, exactement. Okay.
En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de m'inviter.
Pour parler avec toi, donc, comme je le disais, de ton parcours. Et puis voilà, tout ce qui t'a nourri musicalement et qui est ressorti justement sur ton parcours. Mm-hmm. Parce que, comme j'ai coutume de le faire dans cette émission, en début d'émission, au moment de la présentation, je vais faire un CV accéléré sur lequel on va revenir après. Donc, 29, producteur qui a travaillé avec Dinos, Dossel, Looney, SCH, Ize, Tsu de Kid Swing et quelques autres encore, avec une année 2022 très riche, de ta participation aux albums Hiver à Paris de Dinos et Trop tôt pour mourir de Dossel. Et en parallèle, tu as aussi une carrière d'artiste, interprète, encore un peu confidentielle, mais on va avoir justement l'occasion d'en parler, de revenir dessus. Alors, je parlais justement de cette année 2022. Comment t'en es sorti de cette année 2022? T'étais pas trop fatigué justement d'avoir fait tout ça?
Franchement, c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à faire autant de trucs en 2022, en sortie de confinement, tu vois. Genre, enfin, c'était vraiment le surlendemain, on va dire, de cette époque-là, du confinement. Et je m'attendais pas à ça parce que j'avais limite peur, si tu veux, de me taper un peu les pots cassés du confinement, tu vois, il y a plus trop d'énergie, on t'appelle pas trop parce que t'as rien fait pendant un an, tu vois, au final. Et j'en suis très satisfait, ça m'a pas du tout fatigué, j'ai pas vu le truc passer, en fait. J'ai pas vu le truc passer, et je crois que c'est mon année la plus prolifique, entre guillemets.
Complètement.
Et j'ai même peur de pas refaire ça, tu vois, cette année-là, tu vois. c'est mon année, quoi. C'était très cool.
T'as eu des albums blues après ces deux albums sur lesquels t'as beaucoup travaillé, ou...
Non, ça va.
Ok. Ouais. Donc on va revenir évidemment sur ces deux albums tout à l'heure. J'aimerais qu'on vienne à tes débuts de passion pour la musique. Quels sont tes premiers souvenirs, justement, liés à la musique?
Oh, la question de fou. Mes premiers souvenirs, déjà, il faut savoir que moi, j'ai des parents qui écoutaient de tout, mais vraiment de tout. Quand j'étais petit, pour te citer quelques trucs, ça peut aller de Coldplay à Bob Marley en passant par Eric Abadou, tu vois, mais vraiment. Et du rap français, NTM, IAM et tout, mes parents, ils écoutaient tout. Mon oncle, il faisait du rap aussi.
Okay.
Mon oncle, qui s'appelle Esquive le technicien, qui s'appelait et qui a fait commencer en fait Oxmo Puccino.
Bien sûr.
Je suis un missionnaire, ma mission, le hip-hop, prendre sa attention comme un doc, je prends l'euthanasie de la pop, devenu tortionnaire envers les vauriens, je compte bien le charcuter comme un chirurgien aux urgences.
En fait, il habitait chez ma grand-mère, et c'était la pièce cachée dans laquelle j'avais pas le droit de rentrer,
d'accord,
tu vois, remplie de fumée et tout, où il y avait ses potes un petit peu brosson et tout, et où clairement j'avais pas le droit de rentrer, tu vois. Et je pense que ça crée des rêves, ça, en tant qu'enfant, tu vois. Tu te dis, putain, c'est quoi ce truc et tout. À côté de ça, j'ai un autre oncle qui est genre artiste peintre.
Okay.
Et j'avais ce truc de moi, quand on me disait, ouais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je voulais être artiste, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois.
Okay.
Donc je kiffais la musique, c'était mon truc. J'aimais bien danser carrément aussi, tu vois. Et ouais, premier souvenir avec la musique, du coup, c'est les sons de mes parents. Et beaucoup, je suis de cette époque qui a beaucoup téléchargé. Donc à partir de mes... En fait, le truc, c'est que je regardais énormément les clips sur MTV Base. Donc je me suis fait une culture musicale à partir de ça. Beaucoup de clips Quinry, rap US, R&B. Et très vite, en fait, je téléchargeais tous ces sons-là pour les mettre sur mes clés USB, les petites clés qu'on avait là, les clés trucs MP3. Et avec mes 60 sons...
Le petit écran LED bleu.
Exactement.
Ouais, très bien, ouais.
Exactement.
Tu pouvais mettre 10 chansons en général dessus.
Ouais, voilà. Grave. Et je partais au collège avec ça, tu vois. Et donc, je tournais en boucle sur toujours les mêmes sons. C'est vraiment, je pense que ma culture, elle s'est faite à partir d'MTV Base. En fait, c'est vraiment à partir de entre mes 8-12 ans où j'ai quitté ce qu'écoutaient mes parents pour me faire mon petit truc à moi. Ouais.
Bien sûr.
Ouais.
Alors justement, les sons qui tournaient en boucle dans cette clé USB lecteur MP3, c'était quoi ?
Il y avait beaucoup de prods de Timbo Farrell. Mm-hmm. Et à cette époque-là, je ne comprenais pas. Juste, j'écoutais que des sons d'eux, mais sans le savoir, tu vois. Et le pire, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était vraiment mes mentors, parce que les gars, je les voyais dans les clips. Mm-hmm. Je ne savais pas qui faisait les prods et je voulais leur... Tu sais, genre, j'ai trouvé trop stylé. Je me disais, putain, j'aime trop son attitude et tout. Farrell, il fait 2-3 bacs, il fait 2-3 chorés, des trucs de con. Mm-hmm. Mais je voulais être comme ces gars-là, tu vois. J'étais là, genre, ok, c'est eux les mecs stylés. Et après, quand j'ai compris qu'en plus, ils faisaient les prods, j'ai capté que je voulais faire de la prod, en fait, tu vois. Parce qu'en plus, ouais, mon approche, je te dis, c'est... J'aimais trop danser, moi, quand j'étais petit peu.
Et donc, oui, effectivement, il y a vraiment un truc très lié à la danse, au corps dans leur musique.
Hyper lié, en fait, à la prod. Moi, depuis que je suis petit, j'écoute pas tant les textes, parce qu'en plus, j'écoutais du carré, je comprenais rien. Mm-hmm. Donc, j'écoutais énormément les sonorités qui font la prod, tu vois. Et donc, quand j'ai compris ça, mais pour moi, c'était genre, ah, ok, c'est ce que je kiffe faire, c'est faire de la prod, en fait, tu vois. Clairement.
Et quand est-ce que tu t'y es mis ? Quand est-ce que tu as franchi le pas d'auditeur passionné ?
C'est marrant comment j'ai commencé ça. En fait, t'as cité Luni. Mm-hmm. C'est un pote d'enfance, on se connaît depuis la sixième.
Okay.
Et lui, en fait, il a toujours rappé. Depuis qu'on est tout petit, il rappe, il venait en bas de chez moi pour me vendre ses tapes qui gravaient sur CD et tout, tu vois. Et son frère, il faisait de la prod. Il était sur Logic et tout à l'époque. Et donc, très vite... On a commencé à faire de la prod, on s'en plaît énormément parce qu'on savait pas faire de musique. On n'a pas du tout ce background-là.
Oui, t'as jamais appris à jouer un instrument, ce genre de choses. Ouais.
Pas du tout, à part faire de la flûte comme tout le monde au collège, tu vois. mais ouais, du coup, c'est vraiment en fait à partir de 14 ans où on se posait chez lui en sortie de cours et on faisait des prods pour que lui, il rappe. Et en fait, très vite, moi, j'ai commencé à kiffer rapper aussi, tu vois. Donc, on a fait un espèce de mini faux groupe où tous nos potes essayaient de passer un petit peu derrière le mic et tout. Mais on prenait trop de plaisir à faire les prods. On samplait tout ce qu'on avait sous la main, on chopait de fou les samples et ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé.
Ok. C'était vers quelles années, ça, tu te souviens ?
J'avais 14 ans, j'en ai 29, donc ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans, ouais. En 2023, donc vers 2008-2009, par là.
C'est ça,
fin des années 2000.
C'était pas ultra sérieux, en fait. Le truc a commencé à devenir sérieux autour de mes 18-20 ans, quand j'étais à la fac.
Ok.
Ouais, où j'ai vraiment commencé à mettre ce nom-là sur ce que je faisais et où je sortais les trucs sur mon SoundCloud. J'étais à fond SoundCloud. C'était mon époque où j'étais... fan de genre Kate Ranada, Stu et toute cette scène en fait. Mm-hmm. Et tu sais, je me disais, parce que c'est une phase où j'écoutais pas de rap français, j'étais pas trop fan de ce qui se faisait.
Très branché Carré.
Après, ouais. En 2012-2013, je suis à fond Carré, moi, tu vois, je suis à fond Carré. Et du coup, ouais, je me dis, c'est fou que des mecs qui fassent des prods arrivent à vivre de ça et en mettant des sons sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me lancer dans ce truc-là.
Alors justement, le moment où tu commences à prendre ça au sérieux, la production, où tu t'y mets vraiment, vers ces années 2012-2013, à ce moment-là, t'essayes d'imiter, parce qu'avant de créer, on imite.
Ouais, ouais.
C'est quoi un peu tes modèles de production en ce
moment ? Alors là, c'est très très simple, très clair. Les trucs que j'écoutais énormément, c'est les premiers tracks d'A$AP Rocky. Mm-hmm. On était à fond dans ça. Mais là, c'est vraiment à l'époque le truc que je te disais quand je commence, genre le truc avec Luni et tout. Mais quand je me mets moi dans mon projet solo et à sortir des prods, je suis très matrixé par la scène SoundCloud, comme je t'ai dit, Kate Rastou et tout, sur les prods. Mais sur les sons rap et tout, je me suis mangé du Drake à balle, du Nothing Was The Same, c'est mon album ref de tous les temps. Kendrick de fou, mais vraiment de ouf. Qu'est-ce que j'ai mangé ? En fait, toute cette époque, entre 2011 et 2013-14, c'est mes bases. Tu vois, que ce soit, je sais pas moi, Watch the Throne aussi. Qu'est-ce qui m'a... Travis aussi, mais vraiment, mais dès le début. Travis, moi, je suis fan dès le début sur son premier EP, comment il s'appelle le truc où il y avait genre les sons Upper Echelon et tout, tu vois.
All Pharaoh.
Ouais, c'est ça, All Pharaoh, exactement. Moi, je suis déjà fan de ce truc-là, en fait. Et je me dis, putain, ça ressemble grave à ce que j'aime faire et tout, tu vois. Donc, je trouve toutes mes références là-dedans, dans ces sons-là.
Alors, c'est intéressant que tu m'as cité Nothing Was The Same.
Ah ouais.
Parce qu'une fois, on a eu l'occasion d'échanger, toi et moi, sur c'était quoi un peu ta production préférée
ever. C'est vrai.
Et tu m'avais cité un morceau de cet album-là,
ouais.
qui est le morceau Was Behavior.
Exactement.
De Drake. Yeah. Et qui est produit par DJ Dave.
Ouais. They used to never wanna hear us. Remember? Motherfucker never loved us. Remember?
Motherfucker. Remember? Est-ce que ce serait encore aujourd'hui une de tes productions préférées?
Ouais, totalement. Ouais, totalement. Bah déjà, l'album, je te dis, m'a complètement matrixé. C'est vraiment la source de ce que je fais moi et tout aujourd'hui. Mais surtout, la prod, en fait, je la trouve intemporelle. Elle est intemporelle et je trouvais ça fou que même lui, quand on lui demande, en fait, à l'époque, quand ça sort, il te dit bah, « je pourrais pas la refaire ». Tu vois, genre, c'est un peu, ça s'est fait sur le moment et tout. Et en fait, je l'entends totalement parce que c'est un truc que j'ai déjà vécu. Tu me dis « refais la prod d'Argentique », je ne sais pas la refaire, tu vois.
C'est le mood du moment, c'est peut-être l'accident que tu as réussi
c'est
à trouver.
C'est exactement ouais. ça. Et c'est mes prods préférés. C'est mes prods préférés. Et c'est pour ça, bon, après, je pense qu'on s'en reparlera et tout, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le studio parce que tu mélanges les accidents de tout le monde dans la salle, tu vois. Et ça fait des trucs de fou que toi, tu n'aurais jamais fait tout seul. Si tous les accidents, ils sont tous alignés, s'il y a un alignement parfait des planètes, t'as un son de fou à la fin. Ça, je kiffe.
T'as débuté sur quel logiciel quand t'as commencé?
Sur FL.
Okay.
Et après, je suis passé très vite sur Logic parce que, comme je t'ai dit, Luni, il était dessus, son frère aussi et tout.
D'accord. Donc, dès que tu commences à produire sur ces années 2012, 2013, 2014, c'est avec Luni que tu travailles tout de suite du coup,
ouais.
ou avec d'autres personnes?
Très logiquement, c'était avec lui parce que je t'ai dit, pote d'enfance, on était tous les jours ensemble, clairement. Mm-hmm. Et en fait, c'était simple parce que c'était un jeu en fait pour nous, tu vois. Mm-hmm. Donc du coup...
Il y en a qui allaient jouer au foot, il y en a qui étaient sur leur console,
exactement.
Vous, c'était le son quoi.
T'as tout capté, c'est exactement ça. On sortait des cours, on allait faire des sons. Et c'était cool à faire. Et après, je me suis... En fait, moi, j'ai pas cherché à placer dans le rap, mais vraiment pas. Je me suis détaché de ce truc-là, parce que déjà, j'écoutais pas de rap français. Je voulais absolument placer au stade, ça c'était mon big goal. Mais la scène SoundCloud a fait que je me suis contenté de sortir des originaux juste de prod. Mmh. Après, je prenais des ACAP, je sortais des remixes et tout, et j'avais des plays comme ça, tu vois. Donc je trouvais ça trop cool, je me disais ouais, je suis genre écouté au Mexique, aux États-Unis, au Québec et tout. Je me disais c'est un truc de fou. Et très vite j'ai commencé en plus à mixer grâce à ça sur la scène parisienne et tout. Donc je me suis fait mon nom comme ça en fait, clairement. Et c'est comme ça même que les premiers gars du rap avec qui j'ai taffé m'ont en fait contacté et tout parce que j'avais cette scène là SoundCloud, tu vois.
En plus du fait de poster tes sons sur SoundCloud,
ouais.
mine de rien, tu fais aussi des productions pour l'Uni, ce qui te permet d'avoir une carte de visite aussi, une exposition pour ta musique.
Carrément.
Et c'est vrai que finalement, ça rejoint un peu tout ce que tu disais sur tes inspirations, peut-être aussi sur les siennes. C'est que quand on écoute les morceaux de cette époque-là, on sent ce truc, OVO.
Tu m'étonnes.
Et Travis Scott.
Ah,
je me souviens d'un morceau, j'ai réécouté ta discographie en entier, évidemment, pour préparer cette interview.
Chaud.
Il y en a un en particulier, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment l'espèce de trap gothique à la Travis Scott. C'était le morceau Pleine Lune. Tu vois,
oui, ouais, grave. Pour rien qu'on tire, ils nous visent, donc bien sûr qu'on les cible. Telle est notre devise dans la zig, on fait bien plus qu'imposer notre rythme. Et ouais, c'est clair que ça a été une bonne carte de visite, en fait, parce qu'on le faisait juste en kiffant et... Mes premiers rendez-vous pro, c'est beaucoup grâce à ça. C'est beaucoup grâce à ça, ouais. Il commence à porter de l'intérêt au projet et tout, que ce soit lui comme moi, tu vois. Donc, vraiment, c'est trop cool que ça se soit fait comme ça, ouais.
Et c'est vrai que vous avez fait un bout de chemin ensemble parce que à partir de 2017, il commence à sortir plusieurs EP,
ouais.
avec à chaque fois des noms de couleurs,
des couleurs exactement.
Orange, etc. Et je me souviens en particulier, moi, c'est comme ça que je découvre ton nom, justement.
Ouais.
C'est en 2018 avec Bleu,
ouais.
Où je trouve que, à mesure que vous avancez ensemble... Ton son commence à s'étoffer
ouais,
aussi.
Grave.
Et je trouve que sur Bleu, il y a vraiment, quand je réécoute rétrospectivement, il y a un moment donné où ça commence à s'étoffer, il y a plus de détails.
Ouais, je suis d'accord.
Dans les rythmiques, dans ta manière de découper les samples
grave.
Aussi, etc.
Ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Il y a un vrai clivage sur cette EP. Mm-hmm. C'est totalement mon son. En fait, je pense que je pourrais le ressortir aujourd'hui sans que ça paraisse chelou. En tout cas, les prods, tu vois. Je pense que. Ce truc de sortir les couleurs, ça nous a fait progresser tous les deux un truc de fou.
Pourquoi? Parce que en termes de rythme de travail,
ouais.
justement de,
ouais, il y a ce truc-là et en fait, on se met dans un truc un peu plus sérieux parce que ça commence à faire des plays et tout aussi. Ça commence à faire des vues. Johan Dorlipo qui clip, il lui fait des clips de fou, donc on peut pas faire des sons nuls, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Donc on commence à se mettre une pression. Et puis le fait que ce soit des formats très courts, 4 titres, ça fait qu'il faut que les 4 titres ils soient bien et qu'ils se correspondent parce que c'est des couleurs, tu vois. Donc ça te met dans des conditions où tu peux pas faire ce que tu veux, tu vas pas faire du noir dans le genre dans le rose, tu vois. Et je me rends compte que moi j'aime bien travailler sous certaines conditions comme ça. C'est un truc qui me correspond bien.
Les contraintes, justement, ouais, pour les dépasser par la créativité, ce genre de choses.
Ouais. Ouais. Puis ça donne des idées, en fait, mine de rien, tu vois. Ça t'oblige à faire ceci, cela.
Est-ce que tu fais de la synesthésie? Tu sais, ce truc d'associer deux sens. Par exemple, quand t'entends un son, tu vois une couleur.
Je pense que je le fais, mais c'est pas... Alors, c'est pas des couleurs, mais je comprends totalement. Je sais qu'il y a plein de gens, c'est des couleurs. Mm-hmm. Mais moi, ça me le fait moins. Mais je sais que quand j'ai commencé, ça me je sais pas comment dire ça. Ça peignait des endroits.
Ok.
C'est un truc de fou, hein. Ça peut paraître trop chelou
mais
pour
non,
ceux qui ont
non,
pas ça
des
et tout.
Associations d'idées, ouais.
Mais si tu veux, selon les sonorités, selon comment ça sonne, je saurais même pas comment dire si c'est, je sais pas si c'est la douceur ou genre l'agressivité et tout, mais je peux me retrouver dans un monde de friandises bisounours, mm-hmm, ou dans un truc hyper sombre et tout, mais c'est vraiment le son, il me met une image, tu vois. C'est pas genre je me fais un délire et tout, je fume pas et tout, tu vois, genre vraiment. Mais ouais, ça me crée une image, et il faut que je respecte cette image là, en fait, pour que, enfin, si je veux que mon son il ressemble à ce que j'ai dans la tête, il faut que j'aille à fond dans ce truc là
la puissance de l'imagination, parfois, ouais. c'est un plus gros rush que peut-être n'importe quel produit psychotrope, parce que justement on est porté par sa créativité.
C'est clair.
Et t'arrives à te projeter justement sur des images, des sensations, là par exemple, comme tu disais, quoi, des paysages, tu vois. Et parfois ça peut être très puissant, justement.
C'est clair.
Comment ensuite tu viens à rencontrer Dinos, alors que tu travailles beaucoup avec Luni sur cette période de, en gros, 2013 jusqu'à 2019, puisque Chrome ça sort en 2019. Comment tu viens à rencontrer Dinos, à commencer à travailler avec lui?
Alors, en fait, à l'époque où je bosse avec Luni, nous on kiffe le groupe Eddie Hyde, 3010, Pessoa et tout. À l'époque, on est genre, on kiffe et on commence à se rapprocher d'eux et tout. On commence à bosser genre avec Pessoa. Moi, j'ai fait quelques titres pour lui
tout
et tout. Et pour nous, c'était trop un truc de fou, tu vois. C'était un truc de malade parce qu'on les écoutait et tout. Même nos potes écoutaient et tout ça. Donc, on se disait, ouais, ça y est, ça devient sérieux. Et en fait, ce que je pense tout le monde ne sait pas de cette époque-là, c'est qu'il y avait Eddie Hyde et il y avait Square, qui était un autre groupe avec quasi les mêmes types, mais d'autres types encore.
Okay.
Et c'est Tony Carino qui était dans Square, qui était en fait notre contact commun, qui nous a dit, moi, il m'a dit, il faut que tu bosses genre avec Dinos. Et il a dit à Dinos, il faut que tu bosses avec 20. Et c'est lui qui a fait le truc. Et en fait, Dinos, il est venu chez moi à l'époque à Champigny, chez ma mère. Et on a fait un premier son ensemble. Je crois que c'était même Chapelle 16, si je te dis pas de bêtises.
Ouais, mais en tout cas, il est crédité comme le premier morceau que vous avez fait.
Ouais.
Chacun pour soi et je pour tous. Si ça rafale, je perds la notion de la gravité. Je crois que ça m'emmerde, gars. Si je suis à terre, gars, c'est sûrement que je suis en l'air, gars. Reste pas dans les parages, mec.
On a fait un premier son qu'on a samplé par la suite pour faire Chapelle 16.
Ok.
Et bref, il vient chez moi et tout. Et en fait, il voit que j'ai un petit contrôleur pour faire de la scène. Et il me dit, je vois que t'as des platines. Moi, je tourne, là, j'ai quelques premières parties et tout. On faisait des premières parties de joke à l'époque. Et il dit, tu serais chaud de me suivre sur des scènes, tu vois. Et en fait, depuis le temps, je te dis ça fait 7 ans, en vrai, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on s'est linké. Et du coup, j'ai commencé à faire les dates avec lui.
Ok. Donc j'imagine que c'était l'époque de Namek, par
exactement,
là, c'est ça, d'accord.
Ouais, il venait. En gros, c'est juste après Namek, Paug et tout. Donc c'était ça qu'on jouait sur scène.
Ouais. Ok.
Ouais. Et donc voilà, ouais, très vite, il se retrouve en fait à faire Imani, donc à faire le début d'Imani, parce qu'avant qu'il y ait Imani, on fait trois albums, tu
attention,
vois.
Ouais.
Mais du coup, c'est à cette période-là qu'on se rend compte, et c'est pour ça que j'ai beaucoup contribué à cet album, en fait. Même si au final, j'ai pas tant de titres que ça, on en a fait pas mal.
Il y en a quand même pas mal, ouais. Hein, j'ai reconté, il y en a un bon tiers quand même.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y en a pas mal.
Ouais. Ouais, là, c'est vrai.
Juste avant qu'on parle d'Imani, parce qu'effectivement ça a été un long parcours, et même du coup pour toi,
tu m'étonnes,
t'as dû retravailler sans doute beaucoup de choses. En parallèle aussi, quand on regarde un petit peu ton parcours discographique, c'est aussi à ce moment-là où tu fais de plus en plus de choses à ton nom sur cette période-là, au milieu des années 2010, et j'ai même retrouvé des morceaux où t'as des interprètes R&B par exemple dessus, je pense à des morceaux avec quelqu'un qui s'appelle August Held,
exactement,
Hudson East,
exactement,
et qui sont des internationaux.
Ouais, c'est ça.
Donc ça correspond peut-être aussi à ce moment-là où t'as des andis de
fou.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que ce truc que tu fais de ton côté dans ta chambre arrive jusqu'à l'oreille justement de chanteurs internationaux pour avoir ces morceaux qui existent aujourd'hui?
Franchement, comme je t'ai dit, hein, c'est SoundCloud, cette scène-là, pour moi, c'était magique cette époque en vrai. Parce que on trouvait des petits labels indépendants qui en vrai n'étaient même pas des labels, c'était des pages SoundCloud, tu vois. On postait nos trucs dessus et ça faisait des streams, et en fait les gens étaient vraiment intéressés et ils venaient après s'abonner à ce que tu faisais en solo, tu vois. Et du coup j'ai été managé par un Suédois.
Ok.
Ouais, qui m'a débloqué des plans de fou et tout à l'époque. C'est lui qui a fait le lien avec August Helt, qui est suédois du coup, mais qui chante en anglais. Donc c'est ce mec là en fait qui nous a dit, mais les mecs, faut que vous fassiez un EP et tout ça, et ça s'est fait comme ça. Et ouais, trop cool, parce que à l'époque sur SoundCloud, ça faisait ses petites stats, ça, c'était super intéressant. Moi, je sortais des EP comme ça sur des petits labels indé qui me faisaient voir. Et la connexion avec Hudson East, pareil, hein, coup de bol, oui et non. Il voit ce que je fais sur SoundCloud, on se parle, tu vois. Et j'envoie une prod qui s'avère être la prod la plus streamée de l'album, alors que dessus, en vrai, quand tu regardes, il y a des mecs comme Ozzy qui aujourd'hui produisent du Travis Scott à balle. Il y a des méga méga stars genre actuels, tu vois. Et je me retrouve avec le son qui marche le mieux. Fou en vrai.
C'est fou.
Ouais, c'est ouf.
Mais il y a eu un moment justement sur cette espèce d'appel d'air qu'a fait SoundCloud.
Ouais.
Dans l'épisode précédent de ce podcast de BPM, on a reçu Faze.
Ouais. Ouais,
Faze,
pareil.
Il est né aussi de cette génération, tellement. Et c'est comme ça qu'il a pu développer sa patte, ouais. Se faire connaître. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment cette génération là.
Ah, grave. Un tueur. Moi, je sais que j'écoutais beaucoup, je le mettais dans mes, tu sais, on faisait pas la même chose, il était hyper technique et tout ça, mais ouais, c'était genre, j'étais hyper admiratif. Tu vois, et en plus, c'est cool parce que on s'entendait tous bien, tu vois. Il y avait moins ce truc de rap game, d'ego, des trucs et tout, c'était ouais mec, tu veux collab, vraiment ce cliché du tu veux collab, c'était comme ça, tu vois. Okay.
Ça se faisait facilement.
Ouais, de ouf.
Et donc pendant cette période, tu le disais, vous commencez à travailler sur Imani avec Dinos. Et donc effectivement, c'est un album où il y a une longue gestation.
Mm.
Est-ce que vous aviez déjà une idée, soit lui, soit toi, ou vous ensemble d'une certaine manière, une idée précise de la couleur finale qu'a eu cet album? Ou est-ce que c'est une série de tentatives, de retravail?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une série de tentatives. C'est, on fait plein de sons et on garde ceux qui marchent le mieux. Ouais, non, clairement. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie d'Oumar aussi.
Mm-hmm.
Énormément, tu vois.
Bien sûr.
Et moi, à cette époque, tu sais, genre, je suis là comme. Comment on dit ça? Comme exécuteur, entre guillemets, tu vois. C'est, c'est lui qui a les idées. Enfin, c'est genre eux qui ont les idées. Et moi, je fais, tu vois. Et c'est cool parce que c'est ma. En vrai, c'est mes premières approches studio. En vrai, moi, avant ça, enfin, même si je bossais beaucoup avec mon pote Luni, c'est la première fois que je me retrouve dans un vrai studio, pas dans une chambre, pour faire des sons, tu vois. Avant ça, moi, toute ma musique, je la fais chez moi, chez ma mère, solo.
Moi, je trouve qu'il y a du coup, peut-être parce que ça a été dans un temps long, ça vous a permis de sélectionner, de donner une forme de fil conducteur artistique à cet album.
Ouais.
Je trouve qu'il y a un vrai truc dans tes productions de faire une sorte de synthèse de tout ce qui t'a nourri en termes de rap américain les années d'avant. Tu vois.
Ouais, ouais, totalement.
Sur ce son Vio, justement, très brumeux.
Ouais.
Et en même temps, d'essayer de trouver de la singularité. Je pense que n'importe quel artiste tend à ça.
Oui.
Et il y a un. Alors, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, il y a peut-être d'autres morceaux sur cet album-là qui symbolisent ça, mais moi je trouve que le morceau Hiver 2004, il symbolise un peu tout ça.
J'ai de l'amour pour très peu de gens, car il ne me reste que très peu de temps. Je m'abandonne à Dieu, je me repens. Beaucoup le disent, très peu le pensent. Je connais le bloc, les gardes à vue. Je suis le quartier, mais pas la rue. Je connais le bloc, les gardes à vue. Je suis le quartier, mais pas la rue. J'ai de l'amour.
Ça me fait rire parce que c'est une prod que j'envoie à la fin. À la fin, j'y crois pas du tout. Tu sais, genre une prod que j'affectionne pas du tout particulièrement, et en fait limite c'est une de celles qui a le mieux vieilli, je m'en rends compte aujourd'hui, mais quand je l'envoie, Dinos il me dit waouh, c'est un truc de ouf, et surtout en fait Oumar il kiffe le morceau, et moi je me dis mais c'est bizarre, moi je le trouve pas excellent et tout, tu vois, mais c'est marrant, aujourd'hui c'est celui qui revient souvent, et je sais qu'Oumar il avait flashé alors que moi je t'ai dit j'avais pas un coup de cœur particulier sur la prod ou quoi, je l'ai faite chez moi tout seul, je l'ai genre envoyé comme ça, et les deux hein. Ouais, c'est un truc de fou et tout. Ok.
Moi, j'ai le souvenir en écoutant l'album, justement. Alors, j'avais entendu Flasher, tu vois, qui était un des premiers singles. C'est ça. Et vraiment, la première fois que j'écoute et j'entends cette boucle de piano mise à l'envers, ces espèces de samples découpés de cordes très lointaines, tu
exactement.
Vois. D'un seul coup, je fais, il y a une âme sur ce morceau-là, il y a un truc qui se dégage.
Ça
vraiment,
fait plaisir.
C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, tu vois. Donc, je pense que c'était partagé par tous ceux qui ont pu l'entendre
Ouais. Ouais, c'est dingue. Mais là, ouais, en fait, c'est marrant parce que. Bah, en fait, je pense qu'à l'époque, je me rends pas compte que c'est cool parce que pour moi, c'est ce qui est facile à faire. Okay. Et je suis dans un truc SoundCloud où je veux prouver, faire des trucs hyper compliqués et tout. Et ça, c'est le truc que je peux te faire en 2-2, tu vois. Parce que justement, c'est mes premières influences. Et
c'est la maîtrise, en fait. C'est avec les années.
Exactement.
Aussi.
Ouais, ouais. C'est le truc que j'ai eu l'habitude de faire, donc qui me fait peut-être pas le plus kiffer quand je le fais. Et je me rends pas compte que c'est cool, tu vois. Clairement, c'est ça, en fait.
Alors, justement, toi, à cette époque-là, c'est quoi la production sur cet album où, au contraire, tu te dis « Ah, voilà, là, je suis content, j'ai vraiment livré. »
Ah, moi, c'est la... Genre, c'est la prod d'Argentique.
Ce soir, ma vue est dans l'Argentique. Oh, 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 oh. J'suis mort abandonné. Oh, 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 oh. Derrière moi à ma fenêtre. Oh, oh,
oh, oh. Je produis le titre chez moi, pareil et tout. Je l'envoie à Dinos. Mm-hmm. Et il me dit « Mais c'est un truc de fou et tout. » Et en fait, pendant 3 mois, il n'arrive pas à, il n'arrive pas à poser dessus, mais il me dit, mec, garde-la de côté, c'est sûr qu'elle sort. Et 3 mois, il m'en parle tout le temps, il me dit, je tourne sur le périph avec, je l'écoute et tout. Et d'un coup, il pond le sommet et ça tue. Et c'est le premier son où vraiment je me mange tout le son d'un coup, tu vois, et je suis trop fier du son, tu vois, où je me dis, waouh, c'est un truc de fou et tout ce qu'on a fait. C'est genre hors du temps. Il n'y a pas d'autres sommaires comme ça ici en France et tout. Enfin, tu vois, j'ai pas la prétention de dire qu'on a créé un truc, mais j'avais pas d'autres rêves comme ça. Tu vois, et moi, je trouvais ça trop cool. Je voulais ce truc-là de faire un truc qui soit nouveau et qui puisse être écoutable. Tu vois, pas un truc complètement chelou, perché. Ouais.
Et en même temps, il y a quelque chose de bizarre, tu vois, sur ce moment. Moi, sur ce moment-là, il y a un truc à chaque fois que je l'écoute, c'est cette espèce de même note soutenue. Le...
Ouais. Ouais.
En fait, tu vois, toutes les deux mesures, elle revient. Et en même temps, parce qu'il y a tous les arrangements dessus, il y a l'interprétation de Dinos, c'est pas rébarbatif.
Ouais,
tu vois.
C'est pas relou. Ouais.
Mais c'est peut-être ça ce que tu disais sur ce truc d'être singulier et bizarre et innovant, quoi. Tu vois,
exactement. C'est que ça aurait pu être très simple, mais il y a des détails qui font que ça l'est pas, tu vois.
Est-ce que le succès d'abord d'estime et puis après parce que Dinos le défend, etc.
J'allais dire,
tu vois, ça a été aussi, j'imagine, une nouvelle vitrine pour toi d'une certaine manière, en termes de faire valoir ton nom aussi.
Ouais, carrément.
Tu l'as senti à cette époque.
Ouais, en fait, c'est marrant parce que tu le dis très bien, quand ça sort, on vient pas toquer à la porte en mode ouais, c'est un truc de fou ce que t'as fait et tout, ça met du temps avant. Il vient d'être disque d'or, le truc, tu vois. Ouais. Donc, quand ça sort, moi, ça change rien à ma vie, hein. qu'on se le dise, il se passe pas grand chose et tout. Mais les pros, ils se rendent compte que j'ai un truc qui peut sortir un peu du lot dans la prod française. Et donc, du coup, ils commencent à être intéressés pour me faire taffer des projets qui peuvent être un peu plus pop, en fait. C'est ça que j'ai trouvé très cool, parce que je pense qu'ils sont allés creuser ce que je faisais aussi pour l'Uni. Mm-hmm. Et ils se sont dit, ah, tu vois, c'est l'époque où la Variète veut faire des trucs un peu plus urbains. Et donc, on se dit, ah, ce serait peut-être cool qu'ils fassent ça à 20, tu vois. Donc ouais, c'est le premier truc que je ressens, c'est ça.
Et ça se prouve dans les crédits, parce que j'allais t'en parler.
Ouais.
Justement, tu vois, il y a une forme de transition parfaite. C'est qu'une des artistes avec qui tu vas commencer à travailler à ce moment-là, c'est Izot.
Ouais. Ouais, carrément.
Et donc ça correspond à ce que tu dis.
C'est totalement ça. Et c'est marrant parce que en fait, on se connecte avant dans une session pour Dinos, parce qu'elle faisait beaucoup de voix en fait, additionnelles. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois en studio, notamment sur Helsinki.
Mmh, bien sûr.
Et c'est là qu'on s'est connecté en fait au début, mais c'est qu'à la sortie après que je sais plus comment ça s'est fait la connexion, mais qu'on se retrouve en studio parce que ça a vraiment confirmé ce truc-là aussi chez les pros que ah oui c'est vrai 20, il peut faire des trucs un peu plus pop, tu vois.
Et en même temps, ce qui est intéressant sur les premiers morceaux que vous faites ensemble avec Izo, c'est que si je prends un morceau comme... alors, c'est 5 heures, je ne sais jamais si on dit ça, c'est 5 heures, avec Joker.
Ouais,
y a
c'est Medellin qui a beaucoup fait, je précise.
Ok, donc, parce que j'allais dire, c'est une coprode de Medellin.
Exactement.
Du coup, tu apportes peut-être certaines...
Beaucoup d'arrangements en réel et tout.
Ok, d'accord. Mais en tout cas, tu vois, même, je ne sais pas, des morceaux comme Rouge, où tu as une rythmique afro, mais des choses très aériennes, très ovio aussi. Donc, il y a ce truc de vouloir faire effectivement peut-être des choses plus variétées, pop d'une certaine manière.
Mais en gardant ma patte.
Mais en gardant ta patte.
Exactement.
De tout cet héritage musical.
Ouais, grave.
Prends le temps pour le faire, pour le faire. Ton amour varie selon les saisons. Prends le temps pour me plaire, pour me plaire.
Je pense que c'est mon point fort et c'est ce qui parlait justement, comme je te le dis, autant aux pros qu'aux artistes. Et je pense qu'Izolt, c'est pour ça qu'elle m'avait confié ces morceaux-là, parce qu'elle a du goût, tu vois. Enfin, je dis pas que genre je fais des trucs qui sont super beaux et tout, mais elle avait elle a toujours cette oreille-là qui fait qu'elle pouvait porter de l'intérêt à ces styles-là. Et elle avait des super bonnes rêves, tu vois. quand on travaille beaucoup ensemble.
Il y a un autre artiste avec lequel tu commences à travailler, qui a ses sensibilités, qui vient du rap, mais qui a des sensibilités très chant, très mélodieuses.
Ouais.
C'est Swing.
Sure.
Moi, il y a un morceau de lui, en particulier sur l'EP qui sort en 2019, ouais. C'est S'en aller.
Ouais.
Qui est une coproduction avec Crayon et Dune,
avec Crayon et
sur lequel il y a Angèle.
Angèle, ouais. Ouais.
Est-ce que tu as un souvenir en particulier de l'intention qu'il y avait sur un morceau comme ça, qui est un morceau, en fait, là tu parlais d'être de beau, je trouve que c'est un morceau très
ouais,
beau.
C'est très beau. Ouais, c'est très beau. Et c'est, ça, c'est la classe Crayon Dune. Ils ont ce truc très, très chic, en fait, tu vois. Et moi, Dune, je le connais depuis très longtemps. Dune, on était ensemble au lycée.
Ok.
Ouais, donc pareil, histoire de
dans
fou.
Dans le 94,
mais,
c'est ça.
Ouais, exactement, à Saint-Maur. Et en fait, on faisait du son tous les deux, du coup, déjà. Et on avait déjà un peu ce côté SoundCloud et tout, mais on ne faisait pas les mêmes délires et on ne savait pas qu'on faisait du son. Donc, c'est qu'après, à la fac, qu'on se rend compte et qu'on se dit, mais attends, mais en fait, on se voyait tous les jours et on ne savait pas. Et c'est là où ouais, on commençait à faire un peu des collabs et tout. Donc, sur Swing, ça a été super naturel puisque lui, il était en duo avec Crayon, que j'ai rencontré par la suite, du coup, mais avec qui je me suis très vite super bien entendu. Et on était hyper complémentaires parce que ils avaient un projet qui était quand même très orienté soul, voire presque jazz, néo-soul. Et moi, j'avais le côté un petit peu plus urbain, un petit peu plus actuel, entre guillemets. Je mets des grands guillemets, tu vois. C'est pas le bon terme, mais je le trouve
plus,
pas.
Plus agressif, voilà, peut-être, dans certains arrangements, exactement, dans les rythmiques.
Exactement. Voilà. C'est plus ça, en vrai. Que voulait garder Swing. Et en fait, je trouve que genre, le mélange, il est vraiment parfait, tu vois.
T'as toujours eu, j'ai l'impression, une sensibilité, ça se prouve avant. Tu vois, si on prend ce morceau-là, ouais, avant, par exemple, avec Dinos, avec Isolt, avec Luni aussi, même après, on aura l'occasion d'en parler, j'ai l'impression que t'as une affection pour le piano.
Ah ouais, moi ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis grave d'accord, ça me... Bah déjà, j'en joue un petit peu. En fait, déjà, c'est le seul instrument dont je sais un peu jouer, et j'ai cultivé, en fait, un savoir de... Enfin de... des genre des accords de l'harmonie, sans le savoir, hein, mais j'ai vraiment pris goût très vite à ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à creuser, à comprendre ce que je faisais, c'était réglé pour moi. C'était mon kiff, c'était ça, tu vois, c'est ça que je kiffe dans le son, en fait.
Justement, on arrive à un morceau comme S'en aller où tu sors de ce truc d'uniquement produire dans ta chambre, même si, ouais, t'as fait quelques coproductions, on parlait de Méline par exemple, et là t'as des vrais, entre, j'aime pas utiliser le mot vrai musicien, mais des gens qui savent en tout cas jouer des instruments de musique.
C'est totalement ça.
Ça a changé aussi de perspective pour toi, mais justement, dans la manière de produire.
Totalement. Ça a complètement... En fait, moi, c'est là où je commence à vraiment kiffer le studio. C'est où tu ramènes des gens complémentaires dans ce qu'ils savent faire. Et où je me rends compte qu'il y a des gens qui sont bien... Enfin, je le savais déjà, mais il y a des gens qui sont bien plus forts dans certains trucs. Et juste aller faire se rencontrer dans une salle, mais tu sors des sons qui sont 5000 fois mieux que si je les avais fait tout seul. Et moi, j'adore ça. Collaborer, du coup, pour moi, c'est devenu essentiel. C'est pour ça que tu me vois très rarement seul sur des crédits. J'aime bien les sons où je suis seul, mais c'est beaucoup plus rare parce que y a des gens qui jouent mieux du piano que moi et j'ai plein d'idées et je leur dis mais je veux ça et ils le font trop bien, tu vois. Donc pour moi, c'est logique. Même si tu veux, je comprends pas trop ce truc du beatmaker qui veut tout faire sur du plug, parce que pour moi, le son de la guitare, par exemple, tu l'auras jamais aussi bien qu'un mec qui joue avec ses mains. Tu vois,
évidemment,
ce que je veux dire?
Bah ouais, évidemment.
Tu peux sampler ce que tu veux et tout, tu n'auras pas les mêmes articulations, c'est pas pareil, c'est pas le même jeu. Donc pour moi, la vie, elle est là. Clairement, c'est ça qui fait que les gens ils disent « Ah ouais, il y a de la vie », bah c'est ça, c'est juste que le gars, il joue, tu vois.
Et ça a du sens avec l'autre album dont on va parler maintenant, puisqu'on avance dans le temps, on arrive en 2019. Il y a l'album Taciturne de, ouais, Dinos, sur lequel tu es également impliqué.
Ouais.
Et là, on voit arriver au crédit des gens comme Wavemaker,
ouais,
Camille, qui ensuite vont devenir, ouais, Canary You, donc, ouais, Camille justement qui est pianiste.
Exactement.
J'imagine que voilà, ça nourrit ta créativité.
Totalement.
Celle de Dinos et votre possibilité de développer le son que vous avez commencé à,
bah oui,
l'identité artistique sur Imani, quoi.
Ah ouais, pour moi, l'identité Dinos, elle s'ancre à ce moment-là. Mm-hmm. Tu vois, c'est là vraiment où il a son truc, sa patte, sa recette, elle se fait là, en fait. Je pense que c'est beaucoup tous les trois qui avons contribué à ça, et j'en suis fier. Mais ouais, clairement, ça marchait trop bien. On avait notre rythme. Faut savoir que genre Dinos, il taffe comme jamais t'as vu. Mm-hmm. Donc ouais, il y a ce truc de tu peux pas trop dormir. Il t'appelle tout le temps. faut être là quand il le veut et tout. Et c'est cool en vrai parce que bah ça fait des bons sons au final, tu vois. Ça c'est une certitude. Donc ça m'a grave apporté de travailler avec Camille et Wave, ouais, grave.
Même toi, j'ai l'impression que tu t'arrives à t'affirmer, tu vois, parce qu'effectivement, tu te nourris des autres, mais tu te nourris aussi ton propre parcours, de tes envies. Et je sens que sur Taciturne, c'est des détails bêtes, mais sur les rythmiques, tu vois, par exemple, un morceau comme On meurt bientôt, un morceau comme Omri.
Carrément.
Quand les Kaira prient, enfin, j'ai l'impression que voilà, tu te départis de plus en plus de tes influences pour essayer de trouver quelque chose de plus personnel, quoi.
Ouais, grave. Parce que en plus, c'est vraiment l'album où on me dit vas-y, fais-le. Tu vois, c'est genre la première fois où on me dit bah là, on veut que tu fasses ce que tu fais. Tu vois, et ça c'est trop cool. Genre, je me dis ah bon, bah j'ai vraiment un truc que je fais moi, tu vois. Donc je le pousse à fond. Je le pousse à fond et c'est marrant parce que c'est genre on m'appelle pour faire les trucs un peu spé. Tu vois, les détails genre un peu chelous et tout. D'où je suis pas toujours trop fier parce que ça peut me catégoriser dans un truc de ah bah t'es pas très très mainstream, t'as pas les tubes du projet, tu vois. Et là, le fait de le faire à trois, c'est cool parce que je me fais tempérer en fait, mais on me dit quand même de le faire à fond, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est trop bien d'être, c'est ce que je te dis en fait, collaborer, je trouve ça trop cool parce que là je peux faire à fond ce que je fais de mieux et les autres sont là pour faire à fond ce qu'ils font de mieux, et c'est être plus rentrer plus dans des cases, tu vois. Et ça marche trop bien au final, je trouve, le mix de tout ça.
Ce serait laquelle production sur cet album Taciturne qui symboliserait, tu vois, tout ce que tu dis sur cette liberté, sur ces envies et sur cette alchimie que vous avez eue, tu vois, en plus.
Moi, j'adore quand les Kaira prient.
Quand les Kaira prient, il pleut au paradis. Quelques rhumatismes, car la rue m'attriste. Chez nous, c'est beaucoup trop dur à dire. Mais on regrette jamais rien. Edith Piaf, lunatique. Quand les Kaira prient.
Ça marque beaucoup ce que je te dis parce que j'ai été greffé en fait au morceau. Il était déjà là et on m'a dit il faut que tu fasses des trucs. Donc j'ai vraiment apporté le truc de toute la deuxième partie où les drums elles changent, où il y a un autre univers qui se crée. Et tout le long du morceau, je rajoute quelques petits détails et tout. Il y a beaucoup ce morceau là.
En fait, tu deviens presque un arrangeur sur un morceau comme ça, et un réalisateur, quoi.
Exactement. Et ça, c'est pareil. C'est une casquette qu'on m'a vite collée, que je comprenais pas au début. Je comprenais rien. Moi, je faisais juste mon truc, tu vois. Et les pros, ils m'appelaient, tu voudrais bien réaliser, machin. J'étais là, genre, mais de quoi on me parle, tu vois. Moi, je fais des prods, mec, juste. C'est là que j'ai compris que c'était beaucoup ma casquette, ce truc-là de réel arrangeur. Et après, je commençais à le faire pour pas mal d'autres trucs, ouais.
Il y a un artiste avec lequel tu travailles à ce moment-là aussi, qui est Tsu The Kid.
Ouais.
Où là, il y a un aspect plus pop de ta musique, de sa musique aussi. C'est pareil, est-ce que c'est lui qui a ses envies? Alors, déjà, comment vous rencontrez et comment vous arrivez à tomber sur ce terrain-là? Est-ce que c'est parce que tu as des propositions par rapport à ce que lui veut faire, tu vois, voilà.
Bah, c'est marrant parce que...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Marrant, non, tu travailles très bien, tu fais très bien tes transitions. C'est là où je me rends compte que c'est vraiment ma casquette, parce que je me rends compte que je suis là pour réaliser les idées des gens, tu vois.
Okay.
Où je le faisais déjà sur Dino, c'est où ça devient vraiment clair sur Taciturne, où c'est plus j'envoie des prods que j'ai déjà faites et ils posent. C'est vraiment, on arrive au studio, il dit je veux faire ça, j'ai ça en tête, je veux poser ça et tout. Et où je suis là pour l'amener à son but, tu vois. Donc vraiment réalisateur. Et ça, je le vis avec Tsu. Donc comment la rencontre elle s'est faite, c'est simple, c'est notre éditeur commun. On était signé chez Sony.
Okay.
Et première session, ça se passe super bien. En fait, les premières sessions, c'est des prods que j'avais de côté. Ils posent dessus, ça match très bien et tout. Mais très vite, ils me rappellent pour faire d'autres sessions. Et où là, on part from scratch. Et lui, il joue aussi un petit peu du clavier et tout, tu vois. Okay. Donc, il a déjà ses idées. Mm-hmm. C'est là où je me rends compte que moi, c'est ça mon kiff. C'est qu'ils me disent, ouais, je veux faire ça. Et où je dois tout faire pour qu'il se retrouve le plus à l'aise possible sur la prod. Et c'est un truc que j'avais pas l'habitude de faire avant, parce que quand t'envoies des prods tout seul de ton côté et que tu poses pas, à l'époque je posais pas, t'as très vite cette envie de surcharger pour que ça sonne avant qu'il y ait la voix. Et c'est le truc à pas faire, tu vois. Et quand j'arrive en studio et que je bosse avec des artistes comme ça sur le moment, je me rends compte que tu leur mets une loupe, genre une boucle en vrai, tu vois, ils s'y retrouvent. Et je me rends compte aussi que ce que j'adore faire, c'est construire à partir de ça. Genre, je lui propose une boucle, il pose dessus, et quand j'ai ses voix, là, je commence à construire la structure du morceau, tu vois.
Ok. Et donc, vous avez eu l'occasion de travailler beaucoup ensemble sur Diavolana, son premier
projet. Ouais, exactement.
Et ensuite, Aina aussi. Donc, voilà, ouais. Il y a une vraie collaboration, une vraie alchimie qui s'est créée entre vous. 2019 toujours, puisqu'on est sur cette année-là qui est un peu clé, c'est que tu sors aussi des morceaux à ton nom, on commence à t'entendre de plus en plus.
Ouais.
Je pense notamment à ce morceau qui a un titre d'un mème de cette époque-là, Scopatumana, par exemple.
Putain, ce vieux titre-là, je suis dégoûté.
Ce qui est cool, c'est que c'est comme ça que j'ai su que tu venais de Champigny, par exemple, parce que t'en parles,
c'est
justement.
Vrai, ouais.
T'as aussi un morceau comme Mama,
ouais.
Avec cet R&B très épuré où tu parles de ta lassitude et tes espoirs sur ta vie d'artiste.
Okay, ouais, c'est
maman m'a dit, faut pas déconner, qu'est-ce qu'ils te font manger tes abonnés, sera là quand on trionnait. Est-ce que tu seras assez fort pour comprendre l'ironie? Est-ce que tu vas pardonner tous ceux qui vont t'abandonner?
À quel moment t'as eu envie, toi aussi, de plus seulement être derrière les machines, mais de devenir interprète?
Et l'histoire, elle est naze en vrai. C'est sur Mama, c'est le premier titre que j'ai fait solo, oui et non, parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé genre avec Luni, je rappais un peu. Et en fait, Mama, c'est je suis avec Luni à l'époque dans sa voiture et il me joue une prod et je lui dis, mais cette prod, elle est trop ouf, elle est genre c'est trop chaud et tout. Il me dit, mais c'est toi, gros. Je lui dis, attends, t'es sérieux? Il me dit, ouais, c'est une prod que t'as fait il y a longtemps, que tu m'avais envoyé, mais j'arrive pas à la poser. Je rentre chez moi, je retrouve la prod, je pose direct dessus. Genre tellement ça m'a inspiré. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que après genre dans mon process créatif en tant qu'artiste, j'ai besoin de me détacher de la prod, genre vraiment, tu vois, il faut que ce soit presque pas moi qui l'ai faite pour que j'ai des idées complètement claires de texte et de top line et ce que tu veux,
parce que t'arrives pas à séparer dans ta tête
exactement
la partie producteur musicien de celle d'interprète,
c'est ça ouais. Si je viens de faire la prod, j'ai encore trop les mélodies que je viens de caler au clavier, j'arrive pas, tu vois, à me détacher de ça, alors que quand c'est quelqu'un d'autre ou si c'est moi il y a très longtemps et que je me souviens plus de comment j'ai fait cette prod là, ça se fait tout seul, ouais. Et tout bêtement, je fais ce son là du coup, Mama, je le pose, je peux juste un couplet et un début de ref, et j'ai l'idée bête à l'époque de faire un playback que je filme. Donc je prends une vidéo, je pose mon tel fixe, je bouge pas et je bouge juste ma bouche, tu vois, mais un truc claqué, je le mets sur les réseaux. Et genre, à mon échelle, ça buzz, tu vois. Clairement, je vois, ça retweet de fou, ça like de fou et tout. Et j'ai tous mes potos producteurs, artistes et tout, qui ne savaient pas, en fait, que je pouvais poser, qui sont donc déjà, qui partagent le truc, donc c'est trop cool, et qui sont là, genre, gros, faut que tu continues, là, tu fais quoi, tu vois. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, ouais, ça m'a, genre, j'ai vraiment kiffé le faire, les gens adorent, ça veut dire qu'à chaque fois que je me pointe dans une salle ou quoi, on me fait le coup du j'en ai marre d'être fatigué, je suis fatigué d'en avoir marre, c'est la première phrase du titre, tu vois. Et je suis très vite assimilé à ce truc-là, en fait, donc ça rentre dans un, genre, dans un délire de, mec, on attend des sons, ouais.
Et tu, ça t'a piqué, tu t'es pris au jeu, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a effrayé, je sais pas, tu vois, comment t'as réagi
les
à cette attente?
Ouais, les deux, ouais, grave. C'est-à-dire qu'au début, je commence à kiffer, donc je fais très vite Scopatumana. Et en fait, le truc qui fait que je me mets la pression, c'est que Mama, il stream pour un truc où j'ai pas de label, je suis tout seul, je suis vraiment tout seul, je le sors sur DistroKid, je mets aucune promo, j'ai pas de sous pour mettre là-dedans et tout, tu vois, je comprends rien de comment ça marche et tout, je mets juste le son sur Spotify, truc Apple Music et tout, et j'arrive à 175 000 streams, tu vois, je me dis, mais c'est chelou ça, je pensais qu'il fallait faire des trucs, faire de la pub, la promo et tout, tu vois. Scopatumana, pareil,
quoi.
Ouais, c'est ça, Scopatumana, je le sors, 115 000 streams. Je me dis, ah ouais, putain. Alors que franchement, je te jure, hein, c'est pas pour faire genre et tout, je m'attendais à faire 200 écoutes, truc inconnu au bataillon. Et donc, je me dis, putain, ce serait cool que, vas-y, juste parce qu'en plus, j'y prends vraiment goût dans le sens où je peux pousser des idées que je ne peux, peux pas toujours faire en studio avec, avec les artistes. Des fois, c'est con, mais des fois, t'es un peu bridé, tu vois.
Bah, t'es tributaire aussi de leurs envies.
Exactement.
Bien sûr.
Je suis là pour eux, je ne suis pas là pour moi, tu vois. Donc là, c'est un peu mon truc de, quand j'ai fait trop de studios pour les gens, c'est un peu mon échappatoire, mon petit truc de, vas-y, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Et c'est pour ça que ça marche très, très cool au début parce que c'est mes petits kiffs que j'ai dans ma tête qui traînent, tu vois. Et en fait, là, je commence à mettre une pression de « Ah, vas-y, il faut que je fasse un projet. Il faut que je sorte un projet, il faut que j'aille trouver un deal et tout ça. » Tu vois, je commence à me prendre la tête sur ça. Et je cherche une équipe, je cherche un mixeur, je cherche de la vidéo et tout. Et je pense que je réfléchis trop à ce moment-là. Mmh. Donc, je commence à rentrer dans un engrenage où le temps passe et où je sors pas de son. Parce que je veux absolument avoir un EP. Je sais même pas pourquoi, au fait. Enfin, tu vois, juste parce qu'il faut un EP. Et je me prends trop la tête et je fais plein de sons. Et en fait, entre-temps, j'ai fait plein de sons. Et là, j'ai genre un EP dont je suis hyper fier, tu vois. Mais je réfléchis encore à comment je vais l'amener. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu peux plus sortir des sons comme ça juste pour le kiff. Et ça fait que 3 ans que je l'ai fait. Hein. Mais c'est même plus la même époque, tu vois.
Et surtout qu'en plus, entre-temps, tu as ressorti d'autres morceaux. Moi, je pense sur un morceau comme Sur les nerfs.
Ouais, exactement.
Sur lequel, je trouve que même tu arrives à t'affirmer en tant qu'interprète.
Ouais.
Notamment dans ta maîtrise vocale, tu as une espèce de vibrato dans ta manière de chanter, par exemple, où on te sent plus en retrait, tu vois, en tant qu'interprète et chanteur sur tes premiers morceaux. Donc, j'imagine que tu as travaillé justement pour t'améliorer, quoi, aussi,
c'est
en tant qu'interprète.
Ah, j'y ai clairement pris goût. Hein. Mm. En plus, entre-temps, récemment, j'ai aussi eu mon propre studio. Mm-hmm. Et ça a beaucoup changé parce que à cette époque, en fait, il y a 2-3 ans, je me sens pas légitime de travailler avec d'autres producteurs sur mes propres sons. Je ne me vois pas amener mes potes avec qui je collab pour d'autres artistes sur mes sons parce que je n'ai pas de budget, parce que je n'ai pas de pièces, parce que je n'ai pas envie de leur faire perdre leur temps. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai peur que le projet ne soit pas assez sérieux. Mm-hmm. Là, depuis que j'ai le studio, c'est juste le grand kiff. Les mecs, ils viennent, on chill, on fait du son. Les sons sont 20 fois meilleurs. Je me trouve largement plus chaud qu'il y a 2-3 ans. Je trouve mon truc. Tu vois, donc là, c'est que du plaisir. En fait, ça redevient que du kiff. Tu vois ?
Est-ce que ton implication sur ton projet personnel, ça explique que tu as été plus effacé sur Stamina et Memento ? Est-ce que ça correspond à ce moment-là ou il y a une autre raison en particulier ?
En vrai, pas tant que ça. Parce que, en vrai, tu sais ce que c'est ? C'est beaucoup le Covid.
Ah, bah oui, c'est vrai que. C'est beaucoup le Covid. On était en 2019, en fait, on arrive en 2020, effectivement.
Exactement. Ouais. Je t'explique le truc, c'est tout con. C'est vraiment le confinement pur et dur où tu peux pas sortir de chez toi. Mm-hmm. Et où moi j'habite dans le 9-4, mm-hmm. Et eux ils sont dans le 9-2, ils habitent tous pas trop loin, et en fait où ils vont au studio, tu vois. Et où moi en fait Dinos il me dit ouais, faut que tu m'envoies des prods, j'envoie, mais il a plus cette démarche. Il me le dit parce qu'il veut que je sois dessus à fond, mais il a plus ce truc là de poser des prods. Donc je peux en fait envoyer ce que je veux, c'est pas pareil si je suis pas au studio. Ça finira pas dessus, je le sais en soi, tu vois.
Et c'est ce que tu disais en plus tout à l'heure sur le fait que depuis Imani, vous travaillez ensemble, il y a ce truc qui s'est créé en studio aussi ensemble, bien sûr.
Ah ouais, non,
donc
mais
c'est
là,
pas la même dynamique d'un seul coup que de revenir toi de ton côté d'envoyer des prods.
Pas du tout.
Eh ouais.
Ouais. Et la seule qui reste que j'envoie en fait à l'époque, c'est une prod avec Banks qui a fait
Judas,
exactement.
Avec The Four.
Avec The Four, ouais. Et
Zixo.
Je plane et j'atterris, je ride en 4000, je nique le BNF, j'ai du bif dans 4 pays, j'ai le KTM, le AUDI, je suis à Dubaï comme un SAUDI.
Et après, sur Memento, il y a le
avec
morceau.
Benjamin Epps, ouais.
Et j'aimerais bien qu'on parle de ce morceau-là parce que toi qui es justement très connu pour ces choses très mélodieuses, très chaudes, là on a un truc très dissonant, très agressif, quoi.
Non, mais là c'est n'importe quoi. Là, clairement, la prod, je la fais, je sais même plus pourquoi, et où je me fais un délire. Ah ouais, je teste des plugins. Et je me fais un délire de je veux faire un son crump. Genre à l'époque, quand j'étais type, je kiffais regarder les
la
vidéos.
La danse.
Ouais, je kiffais la danse, moi.
Ah, la danse.
Et je me dis, vas-y, je vais faire un son orienté crump, vénère, avec des drums énervés et tout. Et en fait, je fais ça. Et Dinos, des mois après, hein, le son, je l'avais déjà depuis longtemps et tout. Il est en studio avec Epps et apparemment, ils se font une écoute de prod interminable. Il me dit, genre, c'était affreux, on écoutait des prods, et tout se ressemblait. Et il me dit, genre, il m'appelle en urgence, ouais, gros, faut que tu m'envoies un truc pas commun. Et je me dis, mais il va jamais prendre ça. Parce que la prod, tu l'écoutes seule, ça n'a rien à voir, tu vois. Et, Et ouais, apparemment, de ce qu'on m'a dit, le DA qui était présent et tout, ils ont joué la prod, ils étaient renversés. Tu vois, genre, ils m'ont dit, mais c'était n'importe quoi dans le studio. On a dit, ok, c'est parti, de suite.
J'ai plusieurs vies, je suis trop frais pour tenir le volant à 10h10. On n'est pas trop fiers, on est méfiants, on n'est pas mauvais, on est méchants.
Ils font du cinéma, bro, c'est du cinéma, go fait le bouillon, le mago fait le dîner. Plein de bonnes bitches, Fabio Lucchini, j'ai peur de les films où je veux salir le Fendi. Je veux comme Brandy.
Le côté peut-être un peu accidentel que parfois tu recherches.
Ouais,
là,
totalement.
Tu l'as eu l'assistance, mais ça fonctionne.
C'est
quoi.
Ça, exactement.
Et c'est vrai que quand on regarde l'ensemble de ta discographie de production, elle détonne complètement, mais ça fonctionne très bien parce qu'en plus, c'est un morceau très ego trip. Donc ça fonctionne très bien.
Oui, c'est clair.
Sur cette période aussi, vers 2019, 2020, jusqu'à 2021, puisque là, on va parler de cet artiste-là, tu places aussi pour SCH.
Ouais.
Deux productions qui sont Paye sur Rooftop et Aluminium sur Julius 2.
Exactement.
Comment tu as eu l'occasion justement de sortir de ce cercle spectaculaire d'un seul coup et de l'Uni un petit peu avant, évidemment, et justement de travailler avec quelqu'un comme SCH ?
J'ai eu la chance d'être managé par Rush Management, qui est la boîte de Sébastien Farran. Et en fait, à l'époque, moi, je te dis, j'envoie très peu de mails. Je bosse avec mes potes, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai eu assez peu de placements, je pense, et que je ne me suis pas assez ouvert à d'autres artistes. Mais là, ça s'est fait, encore une fois, en mode filon, entre guillemets, parce que mon manager, c'était aussi son manager. Mmh. Et donc, en fait, SCH, à l'époque, il cherchait un DJ pour ses showcases. Et donc, très vite, ils nous mettent en relation et tout. Et je le rencontre. Et le gars, hyper gentil, en fait, on est dans le van. Je suis le seul gars qu'il connaît pas en soi, tu vois. Il a déjà son crew, son équipe, ils se connaissent tous et tout. Et très vite, il me met super à l'aise. Il m'introduit, on parle de fou. Il me dit, ouais, tu fais de la prod. Il sait déjà que je fais de la prod, tu vois. Je lui dis, bah ouais, mais... Et il me dit, vas-y, joue des trucs. Je dis, mais j'ai pas assez en moi, tu sais, je commence à être ça. Je me dis, putain, c'est un gros gars, tu vois. Et
non,
je
fais pas... Dessus,
ouais, grave, non, mais grave,
là,
j'avais chaud de fou. Et en plus, je me dis, je fais pas des trucs qui sont vraiment dans son délire. Donc, il me dit, vas-y, joue des trucs, on s'en fout et tout. Je vais dans mes mails et tout, parce que j'ai vraiment pas trop de trucs sur moi, donc je vais creuser dans des mails et tout ça. Et je lui joue trois prods, et les trois prods, il me dit, gros, faut que tu m'envoies les trois. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Il me file son mail, du coup, on tourne ensemble, hein, on fait quelques dates ensemble et tout. Et j'envoie, du coup, le fameux mail. Et très vite, en fait, sur cinq prods que j'ai dû envoyer, en fait, il en pose deux. Il en sort Paye très vite, donc je comprends que ouais, ça match, tu vois.
Et ensuite, donc il y a Aluminium aussi. Donc
c'est
sur,
ça, exactement.
Sur Julius, ça faisait partie du même lot ou c'est un truc que
non, c'était pareil, peut-être un an ou deux ans, je sais pas, quelques temps après, je renvoie deux mails à tout casser avec trois prods chacun. Il en prend une, il me dit gros, j'aime trop. Et ça sort vraiment, tu vois. Pas ce truc de il met les prods de côté, je sais pas si ça va sortir, les deux elles sortent. Donc ouais, trop cool.
Si on se croit sûr, ça tira vu. Après, il y a les statistiques. T'es admis au CHU, dans un état critique, c'est pas de l'abus. Dans l'ongle, n'en seras-tu. Si son chevaux me reverras-tu. Le passé te rattrape, les petits ont grandi, ils te mettent la matraque.
Et c'est là où je me dis, ah, je ferais peut-être bien d'envoyer des prods aussi.
Parce que jusque-là, tu t'étais jamais posé la question de rentrer dans cette économie du placement,
non,
etc.
J'ai eu trop de mal avec ça parce que j'ai tellement pris goût en fait, au studio et à être sur le moment présent avec les mecs que j'ai commencé à essayer d'envoyer des prods et c'est un autre game. C'est un autre game. Il faut que tu en aies 50 000 que tu envoies tous les jours. Faut que tu... En plus, là, tu sais, cet accident, il est hyper dur à trouver parce que le mec, il écoute tellement de prods que tu es un parmi je sais pas combien.
Bien
tu
sûr.
Vois. Donc, c'est beaucoup plus dur de genre taper dans le mille et d'être dans son instant au bon moment, tu vois. Donc, ouais, un autre délire.
Et inversement, parce que tu as gagné en réputation pour la qualité de ton travail avec Dinos, notamment, il n'y a jamais eu des gens qui sont venus te chercher en disant « t'as pas des prods à nous proposer ?»
Si, plein. Et ça ne matchait pas toujours. En fait, il y a peu de sons qui sortent comme ça parce que j'ai peu de catalogue.
Okay.
Je ne suis pas ultra productif tout seul chez moi. Mm-hmm. Donc quand on me demande des prods, je suis toujours un petit peu démuni, tu vois.
Ça rejoint à ce que tu disais sur le fait que tu cherches la vibe en studio.
Ah ouais, grave. Et c'est marrant parce que j'en ai toujours un peu peur en vrai, tu vois, de rencontrer les artistes sur place et qu'il ne se passe rien. Genre c'est ma phobie en vrai. Mais mes meilleurs sons, ils sont faits comme ça, donc je pense que ça va, tu vois.
Alors heureusement, cette pandémie, elle est un peu plus loin de nous. On arrive sur les années 2021-2022. J'imagine que tu peux retrouver le chemin des studios.
Carrément.
Et on arrive à ce qu'on disait en début d'émission, sur cette année 2022 où tu as été très présent en termes de crédit.
Ouais.
Deux albums, je le disais, l'album de... grand retour, même s'il n'a jamais vraiment parti, mais en tout cas, il y avait un petit espace temporel pour Dosset par rapport à son album précédent, Vidalosa. J'aimerais qu'on parle déjà de cet album avant de parler d'Hiver à Paris, parce que voilà, c'est le retour effectivement discographique de Dosset, Trop tôt pour mourir. Comment t'es arrivé à travailler, parce que t'avais jamais pour le moment placé pour Dosset.
Clairement, non.
Il y a des relations entre vous, mais voilà. Comment ça s'est fait et quelle place t'as commencé à prendre? Est-ce qu'il t'a demandé de prendre cette place? Voilà, comment ça s'est déroulé?
Comment ça a commencé? Tout bêtement, Dosset, il a fait un séminaire, en fait. Il a fait un séminaire à Paris, très simple, où en fait, ça a beaucoup été grâce à ce que j'ai fait pour Jules, enfin, pour Dinos aussi. Mm-hmm. Et où juste Oumar, je pense, il lui a dit tiens, on ramène Will, enfin 20. Il y avait Canary aussi, donc pour moi c'était logique parce que la pâte à trois, elle marchait très bien, tu vois. Donc ouais, je me retrouve sur ce séminaire et je viens un jour, puis deux, puis trois, et en fait on enchaîne comme ça. Et il y a plus le séminaire et je me retrouve au studio dans lequel j'allais déjà pour faire Taciturne et tout, mais pour Dosset, tu vois. Et on se rend compte que ça marche bien. Donc ouais, c'est comme ça que ça continue.
Et c'est vrai que ce que tu disais sur le fait de collaborer, quand on regarde les crédits des productions justement de sur lesquelles tu es crédité sur cet album, on voit qu'il y a Focus Beats, qui travaille beaucoup avec Ziak.
Grave.
On voit qu'il y a Chapo, de Chapo Eisenberg, de Narcos. Même il y a un morceau comme Mode S où on voit Boumidjal et Holomob.
Ouais.
Donc là, on est vraiment sur presque du bœuf de musicien en studio. Il y a vraiment cette énergie-là, j'ai l'impression.
Ah ouais, totalement.
En tout cas, quand je vois les crédits, c'est ce que je me dis.
Ouais, totalement. Et c'est beaucoup le séminaire qui fait ça. Et c'est ça qui est cool en séminaire aussi. C'est qu'il y a plein de monde. Des fois, c'est un peu dur de trouver ta place. Il faut savoir se mettre un peu de côté si c'est pas ton son, si t'es pas dessus et tout. Mais quand ça marche bien. Tu vois, et les gens peuvent se demander, mais pourquoi ils sont 50 dessus?
Qui fait quoi?
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est juste genre un tel, il a une idée. T'as souvent quelqu'un qui est devant l'ordi, même des fois deux. Et puis, tu sais, les autres, genre moi, je sais que sur un son, je sais plus lequel, comme ça, je pourrais plus te dire. On était dans une grande salle, t'avais deux ordi. Et moi, j'étais parti du principe que j'allais pas être sur le son. Je voulais pas du tout m'imposer, je me sentais pas légitime et tout. Et en fait, je me suis posé sur le piano au fond de la salle. Et tu sais, la prod, elle tournait. Et j'ai joué deux, trois notes comme ça. Et en fait, Dosset, il a dit, ouais, ça, c'est chaud, faut que ce soit... Tu sais, c'est des trucs à la con comme ça. Ouais. C'est vraiment des trucs à la con. Genre ça, c'est trop chaud, faut que ce soit dessus et tout. C'est dessus.
C'est du brainstorming d'entreprise. Ouais, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice.
Exactement.
Et finalement, peu importe qui est le nom principal ensuite.
Ouais.
Du moment qu'on arrive à sortir de la bonne musique.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as ce truc de... Dans tous les beatmakers, chacun a son petit truc qui kiffe faire plus que les autres, tu vois.
Ce serait quoi, tiens?
C'est une bonne question. Aujourd'hui, j'en ai plus vraiment. Avant, j'étais un délire, j'aimais trop les charlets. J'ai trop faire les charlets pour faire des trucs hyper chelous et tout. Maintenant, je sais pas, j'ai plus vraiment ce truc-là. Je suis moins attaché à ça. J'aime bien faire les arrangements, en fait, faire tout le côté réel, tu vois.
Je me souviens sur Sagittaire, parce que là tu parlais d'Aïa, je me souviens sur Sagittaire de Dino sur Taciturne, qui était un bonus, je crois.
Ouais, c'est ça.
Il y avait tout un jeu sur les open ass notamment,
exactement.
Etc.
Bon, ouais, voilà, ouais, t'es chaud.
Ça m'avait marqué parce que, en fait, comme toi, j'étais un grand fan de Timbaland, justement. Ouais. Et Timbaland, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup déjà sur le groove.
Totalement.
Où finalement, dans le rap, pendant très longtemps, on avait des charlets très droits, très réguliers.
Grave.
Et c'est le genre de producteur qui est arrivé en jouant justement sur le groove des charlets pour donner du bounce.
Ouais, exactement. Bounce, voilà. Mais même pire que ça, tu vois, je te disais tout à l'heure, la vie du morceau, lui, il va tellement chercher loin ce truc-là que quand il faisait ses petits beatbox, là, tu vois, et en fait, il fait des percus, il fait des charlets en vrai, tu vois,
tout à fait.
Avec sa bouche. Et ça rend le truc tellement lourd. Et c'est encore une fois, pour moi, c'est ça qui fait la vie du morceau.
Sur ce morceau, sur cet album, Trop tôt pour mourir de Dosset, même question que je t'ai posée sur les albums de Dino, ce serait quoi un petit peu la production que tu aimes en particulier, sur laquelle ce travail collectif que vous avez eu te semble la plus, le plus parlant, quoi, le plus symbolique
Pour moi, c'est... Ah ouais, putain, j'étais en train de chercher. Pour moi, c'est clairement Jamel.
Souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque. Soudainement, j'entends pac, pac, pac. Le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang, il y a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hurle, ça bride sous les porches, ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge.
À peine pression, mon gars, la pression de fou, c'est-à-dire qu'en fait, Dosset, il rentre au studio, on avait déjà pas mal, enfin, on avait fait beaucoup de sons. Et Dosset rentre au studio et en fait, il nous dit, bon les gars, aujourd'hui c'est sérieux. Et ah ouais, je te dis pas, mais non, mais vraiment, genre l'angoisse, tu vois. Et il te raconte l'histoire.
Ah ouais.
Donc déjà, on se mange une méga gifle, on parle pas pendant genre 20 minutes, on est là, on est en train de regarder le sol et tout, glauque. Et surtout, on fait pas le son le jour J, il ramène Jamel.
Ah ouais.
Il ramène Jamel. Donc là, je te dis pas, ouais, non, c'est trop, trop chaud. Genre, tu te mets vraiment une pression de fou.
Pour ceux qui n'auraient jamais écouté ce morceau,
ouais.
Déjà, allez l'écouter,
ouais.
Pour commencer.
Ouais,
et
bien.
Voilà, Dossé, sur ce morceau-là, raconte l'histoire de son ami Jamel, qui a été une des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Voilà.
C'est ça. Donc, ouais, pression monumentale, surtout que l'histoire est folle et que qu'on connaît pas le texte encore, tu vois, on sait pas vraiment ce qu'il va faire. Justin nous dit qu'il va prendre sa place, mm-hmm. et qui va raconter l'histoire sous son angle de vue, mm-hmm. et on sait qu'il sait trop bien le faire, tu vois, on sait que ça va être un truc de fou parce que clairement Dos, quand il fait ça, c'est un truc de ouf. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, et genre il sait totalement ce qu'il veut comme délire de prod et tout, donc faut bien le faire, faut pas faire un truc cheap.
Surtout que Dossé, maintenant on le sait, mais ça a été prod phaser, donc quelqu'un qui a aussi fait de la production.
Totalement, ouais,
donc,
ouais,
j'imagine
grave.
Qu'il a l'oreille et l'œil aussi sur les détails,
mais
ce
oui,
genre de choses,
mais
voilà.
Grave. C'est un truc, on se tape des barres et tout en studio sur ça, mais il sait totalement ce qu'il veut. Ouais, ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'une production comme celle de Jamel, parce que c'est un storytelling,
il
y a ce côté presque musique à l'image, sans l'image. Quoi.
Ouais,
exactement. Il y a une évolution à partir du moment où l'attentat arrive.
C'est ça.
Il y a des espèces de longues plages de synthé très angoissants, très oppressants qui arrivent. Enfin, il y a vraiment ce truc de faire une bande originale. Quoi,
c'est ça. T'as pas le choix, tu dois faire vivre le truc vraiment. Et il faut que ça raconte une histoire, même dans la prod. Pas que tu peux pas te dire je compte que sur ce qu'il va dire. Faut qu'il y ait une évolution, quoi qu'il arrive. Surtout vu l'événement, tu vois.
Moi, le morceau que je préfère
sur
cet album-là, globalement, je trouve qu'il y a un vrai travail de production justement qui est très fort sur cet album-là. Mais la production, moi, c'est Dina Sanichard.
Ouais. Kiff de fou.
Et je trouve qu'il y a une subtilité dans ce morceau, c'est-à-dire qu'il y a ce côté peut-être rap français des années 2000 dans certaines manières dont c'est tourné, mais il y a cette espèce de basse. On a l'impression qu'il vient du rap de Détroit. Il y a plein de mélanges qui fonctionnent très
chapeau,
bien.
Ça.
Ouais.
Ça, c'est
chapeau, ça. C'est
chapeau,
c'est
chapeau,
c'est le carré.
Bah oui, ouais.
Chapeau,
c'est le carré. Bah oui, c'est ça. Tu captes direct, c'est chapeau. Ça, c'est clairement le côté de chapeau. Et ouais, en fait, ça, c'est les briefs qu'on kiffe à cette époque-là où on se dit il faut faire du carré kitsch, mais sans trop rentrer dans le truc trop kitsch. Et il faut un truc un peu français aussi, tu vois. Et ça, c'est trop cool parce que, bah, encore une fois, on se met des contraintes, tu vois. Mais des contraintes drôles, mais il faut faire un truc bien quand même. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr.
Genre, on se lance vraiment des défis, même sur, je crois que c'est sur Modès, où on se dit, vas-y les gars, on se lâche, on fait un truc, on met des bruits clichés et tout. Mais en vrai, c'est trop cool, tu vois. Genre, on s'est fait plaisir et le son, il est bien, au final.
Ouais, de fou, c'est un bon mot, c'est un sacré banger.
Ouais, voilà, tu vois.
Pour faire de la muscu,
ouais, c'est ça.
Pour aller pousser.
Ouais, c'est trop ça.
Pour faire des excès de vitesse.
Ça, c'est les sons kiff. C'est les sons où on se met des briefs drôles, en vrai.
Bien sûr. Et donc, en parallèle du travail sur Trop tôt pour mourir, il y a aussi le travail sur Hiver à Paris, Dinos.
Ouais, totalement.
Qui sort à un mois d'écart, là, grosso modo, en fin 2022. Est-ce qu'il y avait un brief de départ ? Alors, donc, du coup, t'étais absent sur Stamina Memento. Tu reviens à travailler avec Dinos. Est-ce qu'il y avait
parce qu'on tourne ensemble aussi.
Ah, vous tournez ensemble.
Ouais,
bah,
c'est ça.
Bah oui, c'est vrai que du coup, il y a Stamina Memento.
Exactement.
Qui est défendu sur scène. C'est
ouais,
pas réouverture des salles de concert.
Ouais, voilà.
Voilà.
Gros kiff, tu vois. De jouer, même si c'est pas tous mes morceaux, trop, trop lourd de les jouer
donc,
sur scène.
Du coup, t'étais DJ pour lui, c'est ça ?
C'est ça, ouais, okay. Exactement. Et ouais, non, gros kiff de jouer, même parce qu'il joue encore plein de sons à moi, genre d'avant.
Bien sûr.
Et là, on joue dans des grosses salles. Donc, je commence à voir vraiment, en fait, l'engouement que ça prend, tu vois. Je me rends compte que c'est sérieux. Des sons que je faisais chez ma mère, tout seul, machin, t'as 15 000 personnes qui sont en train de s'enjailler dessus, tu vois. Gros, gros kiff.
Donc, ouais, j'imagine que pour à la fois l'ego, parce que c'est important quand on crée quelque chose.
Ouais, c'est clair.
Et en même temps, pour la créativité ou la future créativité, ça doit nourrir de cette énergie qui vient, quoi.
Mais grave, parce qu'en plus, tu comprends à quoi les gens répondent. Tu sais, voir les sons sur scène, tu vois ce qui marche pour toi, en fait. Donc, tu as envie de refaire pareil, c'est logique. Tu vois, tu sais que tu vas te retaper une tournée derrière, tu as envie que ça bouge sur scène. Donc, on pense l'album différemment aussi, ouais. Ouais, carrément.
Et est-ce qu'il y avait un brief musical de départ ou c'est pas... Tu vois, tout à l'heure, tu disais Imani, ça s'est fait la durée, là,
bah, non. C'est vraiment pas le même esprit.
Ouais.
En gros, le truc, c'est que Dinos, il a déjà le concept, en fait, avant même qu'on ait les sons. Il
D'accord.
a déjà le concept, il sait déjà ce qu'il veut faire, il veut que ça s'appelle Hiver à Paris. Y a ce truc du froid qui se répand sur lui, sur les réseaux et tout ça, c'est l'artiste de cette époque de l'année, tu vois, et tout. Donc, il veut en jouer à fond. Et ouais, il sait ce qu'il veut. Il sait déjà qu'il veut faire une rive gauche, une rive droite. Il sait les ambiances qu'il veut. Et là, clairement, c'est lui le DA. Là, c'est lui le DA de son projet. Il sait exactement quelle sonorité il veut. Non, là, il sait totalement ce qu'il fait de bien, en fait. Et tu l'entends même dans le projet. Genre, rien qu'à sa voix, à son timbre de voix, il connaît beaucoup mieux sa voix que sur Imani. Ah, tu
bien
vois
sûr.
Tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Donc, ouais, il s'affirme, en fait, là. Et il se dit, c'est le projet où je peux me refaire kiffer dans les effets, dans les trucs un peu plus chelous qu'il n'y avait plus sur Stamina, qu'il y avait sur Taciturne.
Sur Taciturne, ouais.
Et c'est ça qui est cool aussi. Et c'est pour ça, je pense que même s'il y a eu le Covid et tout ça, le confinement, je me retrouve plus sur cet album parce que j'aurais pu sortir du confinement, faire des sons avec lui et ça marche pas, il en sort pas, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et là, en fait, il voulait retrouver ce truc-là et ça marche super bien. Et j'ai fait beaucoup de sons avec Augustin Charnay et cette recette, elle marche bien aussi.
Et j'allais te parler d'Augustin Charnay parce que précisément, tu parlais de collaboration, tu parlais du fait que tu aimes beaucoup le piano.
Ouais.
Là, d'un seul coup, t'as un super pianiste avec
exactement.
Toi. Et j'imagine que voilà, de la même l'effet boule de neige, ça doit nourrir encore plus ta créativité aussi d'avoir
grave.
Quelqu'un comme lui.
Effet, mais en plus, effet boule de neige sur tous les aspects, parce que on se retrouve. On avait déjà bossé ensemble sur Riles.
Oui.
Et ça matchait super bien. Et on se retrouve dans une session pour Dinos qui avait entendu des boucles de lui où il voulait que je fasse plus l'aspect drum et tout. Et ça marche très bien encore une fois. Et on resympathise et on se retrouve en fait à louer le même studio quelques mois après.
D'accord.
Tu vois. Donc c'est mon coloc de studio. On est à 2,5 mètres l'un de l'autre. On a deux cabines. Donc on se voit tous les jours. Donc évidemment qu'on bosse ensemble. Tu vois.
Bien sûr.
Ouais.
Surtout qu'en plus, là on parle d'Hiver à Paris, mais il y a aussi donc, tous les maxis qui sont sortis au début 2022.
Ouais,
il y a carrément. Notamment un morceau comme Enfant du siècle, par exemple, où on retrouve déjà Augustin Charnay et toi justement la production, avec encore ce piano très céleste, ses sons de voix.
C'est ça, ouais.
On retrouve, c'était... Alors, j'ai eu l'occasion de dire ça de l'univers musical de Dinos, ou une partie de l'univers musical. Je trouve que parfois il y a un peu cette synthèse du rap français classique.
Ouais.
Et d'Ovio.
Ouais.
Et je trouve que vous arrivez de plus en plus
exactement,
à faire cette synthèse-là. Quoi.
T'es vraiment chaud. C'est ce que je ressens aussi. J'ai l'impression que ce trio Augustin, Dinos, moi, le son, c'est ça. C'est totalement ce que t'es en train de décrire là.
Et ça sent en particulier, je trouve, là, sur l'album Hiver à Paris, un morceau comme Simiassi ou un morceau comme L'univers ne nous voit pas danser.
Ouais.
Je sais pas si c'est les intentions que vous avez d'avoir cette impression presque que vous avez pris un sample.
Ouais. Ah ouais, totalement.
Pour en faire
sur L'univers ne nous voit pas danser, c'est Dinos qui me dit faut qu'on sample November Ultra, que moi je connais en plus, tu vois.
D'accord.
Et je lui dis, mais sûr et certain, tu vois, moi je l'adore en plus, Nova. Et je lui dis, mais je suis trop chaud. Et c'est lui qui me file ce son-là que moi je connaissais, hein, mais je me serais jamais dit qu'il écoutait en plus. Enfin, je dis Jules, en fait, il s'appelle Jules, tu vois, je lui dis. Tous ceux qui écoutent Dinos le savent.
Tu l'as pas snitché.
Ouais, non,
tout va bien.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, en fait, il écoute de tout. Il écoute de tout, il a une super culture musicale. Et en fait, on écoute pas mal les mêmes trucs, en fait. Donc il me dit, il faut qu'on sample ça. Et là, là, c'est l'accident par excellence. Je crois que c'est ma prod préférée de cette année-là.
Ah
tu
ouais.
vois. C'est ma prod préférée. Je suis seul et je sais pas, je m'enflamme. Genre. Et en plus, il faut savoir que quand on est en studio avec Jules, ça va très vite. Il faut très vite qu'il ait sa boucle, qu'il rentre en studio et qu'il pose... T'as 15 minutes max pour faire ton truc, sinon qu'il est là, genre il commence à s'impatienter. Si tu le vois derrière dans le canapé avec son téléphone et tout, c'est pas bon signe.
Ouais.
Tu vois. Donc t'as cette pression de faut que ça aille vite. Et genre là, je vois qu'il me laisse un peu du temps. Il me laisse un peu rajouter des trucs, des machins, des effets et tout. Il me dit vas-y, vas-y. Et je sais pas, genre coup de génie, entre guillemets, tu vois, j'oserais pas dire ça, mais je me sentais trop bien. Je rajoutais les trucs, c'était fluide, j'arrivais à structurer hyper vite et tout. Et ouais, il pose et genre, je savais que j'allais trop, trop, trop aimer le morceau. Et il n'était pas question d'Akash encore à l'époque.
C'est fou.
Ouais.
Et comment il y a eu l'idée finalement d'avoir Akash dessus ?
Je me demande. Je crois qu'il me l'annonce comme ça. Genre, ouais, genre j'ai un truc à te dire, surprise et tout. Moi, c'était genre classique shit de fou parce que, bah, tu vois, mes parents, ils étaient fans de fou. Genre, ma mère, elle adore IAM. Donc j'ai même tenu jusqu'au bout pour envoyer le morceau juste et dire ouais tiens regarde c'est moi qui ai fait
ton fils a fait une prod et il y a Akash dessus, c'est beau. Ça fait
trop,
une belle boucle
fier.
Avec ce que tu disais sur le fait d'avoir été enfant avec des parents qui écoutent IAM, c'est marrant.
C'est ça. Ouais, donc très très grosse fierté. En plus le son je l'adore, c'est pas genre un truc de bon bah voilà il sort et je le mange un peu, mais non là c'est clairement mon son préféré de cette année.
Peu influençable, je pense à mon Bercy pendant mon zénith, je penserai à mon divorce pendant mes fiançailles. La peine ça s'hérite, un peu de sincérité. Je vous déteste pas parce que même la haine ça se mérite.
Et moi, tu parlais des faits. Moi, je sais que quand j'écoute, alors déjà, je suis intrigué par cette ce sample vocal.
Ouais.
Je me dis, qu'est-ce que ça, c'est du jazz des années 60-70, ça sort d'où, tu vois?
C'est une tueuse.
Et c'est après j'ai appris donc que c'était November Ultra.
Ouais.
Et c'est surtout une fois que la boucle sort une fois, où il y a cette espèce d'effet spatial où t'as l'impression d'être en apesanteur dans l'univers, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, quoi.
Tu vois, quand tu me dis, est-ce que t'as des, je sais plus comment t'appelles ça, des analogies qui se font dans ta tête, là c'est clairement ça. Là c'est des sons, moi c'est ce que je vois aussi, tu vois, un espèce de, je me vois dans l'espace. Et ça c'est mon kiff pour les synthés analogiques, tu vois.
Ouais.
J'ai vraiment développé ce kiff là au fil du temps. J'ai commencé à m'acheter mon premier synthé. Et j'étais là genre, mais comment j'ai fait jusqu'à maintenant sans ça, alors que c'est totalement mon son, tu vois.
Donc c'est quoi, c'est genre des prophètes,
t'as tout dit, prophètes, ouais, exactement. C'est ce synthé-là, c'est mon synthé préféré. Donc là, j'ai le 6, mais il y a aussi le 5, enfin bref, il y en a plein. Mais mon gros kiff, il est là. Ouais.
Mais ça sent sur l'album de Dinos, alors je sais pas si c'était le cas sur l'album de Dossé, mais même un morceau comme Modus Vivendi, qui a un côté très, très vice sur certains aspects... Dans la manière dont ça sonne, on sent qu'il y a ce côté presque analogique, justement, d'aller chercher ce genre de texture. Quoi.
Non, clairement. Puis, je sais pas si c'est le fruit du hasard, mais ça revient à la mode aussi. Tu vois, ça revient à la mode. Donc, j'ai cette chance-là de vraiment me remettre dedans quand c'est dans l'air du temps. Donc, c'est cool.
Est-ce que tu as des envies en dehors du rap? Est-ce que tu veux redévelopper un peu plus 29 comme artiste solo?
Totalement. Je te dis, j'ai un projet là. J'ai un projet 7 titres dont je suis hyper fier, bon, qui n'est pas figé sur 7 titres, mais plus je le fais écouter et plus c'est genre évident, tu vois, que là faut que je sorte les sons, que ce soit des potes, des pros, des machins. C'est genre gros, t'as un truc là, c'est différent, t'es tout seul dans le machin et tout, ce qu'on me disait pas. Et moi je fais que écouter à des gens très francs. Ma mère, quand elle me dit j'aime bien, c'est qu'elle aime bien. Quand elle me dit j'aime pas, elle est claire et nette là-dessus, tu vois. Et je trouve ça cool d'avoir des avis de gens qui font pas forcément de la musique, qui comprennent pas tout ce qu'on fait.
Mais parce qu'ils ont pas le regard professionnel qu'on peut avoir, ils fonctionnent qu'à l'émotion.
Ils fonctionnent qu'à l'émotion, c'est exactement ça. Donc là, je me rends compte que ça parle à beaucoup de gens, en fait. Et j'ai juste envie de le sortir. Comment, je sais pas. C'est plus compliqué, il y a des prises de tête et tout. Mais mon kiff, je pense que cette année, il va être dans cette gamberge-là, en fait.
Et est-ce que les deux albums sur lesquels, justement, dont on a parlé, là, Trop tôt pour mourir et Hiver à Paris, ça a réveillé tes envies de refaire de la réale, des arrangements pour d'autres artistes?
Ouais, grave, mais je suis totalement dans ça. En plus, surtout le fait d'avoir mon studio. J'y suis tous les jours, tu vois. Donc, je me retrouve à faire énormément de développement d'artistes, de genre d'artistes qui sont moins connus, qui sont plus petits, mais sur lesquels j'ai plus de liberté. Où je peux vraiment en fait affirmer cette patte que j'ai eu le temps de créer jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est du grand kiff. C'est du grand grand kiff. Donc ouais, je le fais totalement. Même sur des artistes qui sont plus orientés pop et tout, je me fais des kiffs. Tu vois, je sors un peu de cet esprit rap, genre 100% rap.
Moi, t'as cette sensibilité-là. On a eu l'occasion de parler encore avec une fois avec Isolt, avec Tsudokid. On sent que t'as cette sensibilité aussi. Quoi.
Ouais, totalement.
Dernière question de cet entretien.
Yes.
C'est jamais la plus facile à répondre.
Oh, putain.
Si tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît ni ton nom ni ton travail, en une seule production de ton répertoire,
franchement, je
sais que c'est difficile, mais
là, pour moi, ça saute aux yeux là, mais c'est l'univers ne nous voit pas danser. Parce que c'est la plus récente aussi, tu vois. Je pense, enfin, c'est une des plus récentes, et je pense que c'est une des prods que je pourrais écouter dans 5 ans et me dire ouais, trop lourd. Tu vois, genre trop lourd. Je pense pas que ça sonne vieux jeu. Le choix des éléments, il reste intemporel et tout. Ça me définit trop bien. Définit mon genre et ma versatilité entre guillemets, tu vois.
Et puis c'est très épuré.
Ouais.
Parfois les choses très chargées, finalement, ça y vit pas très bien.
Totalement ça.
Alors que cette production, elle repose sur peu de choses, mais c'est des choses qui sont efficaces, qu'on retient tout de suite et parfois c'est suffisant, quoi.
Et c'est là, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un peu le point culminant de ma carrière. Je dis pas que je vais redescendre
certaines envies et idées que tu voulais développer.
Totalement,
quoi.
C'est ça. C'est que moi, je me suis toujours dit, plus j'allège et mieux c'est. Et là, je crois que j'ai trouvé ce truc de, c'est léger, on entend tout ce qu'il faut qu'on entende, mais ça laisse la place qu'il faut à la voix pour vraiment kiffer tout le son dans son ensemble. J'ai pas envie de prendre le dessus sur l'artiste, moi, tu vois, d'avoir la prod où on me dit ouais, la prod elle est ouf, mais j'aime pas trop écouter, tu vois, ça c'est trop relou, ça flatte ton ego, mais moi je veux que tu kiffes le son, pas la prod, tu vois.
Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir échangé sur ton parcours, tes inspirations, tes réflexions dans ce podcast BPM de Bouscapé. Bonne continuation et on va guetter justement des choses que tu vas sortir à ton nom.
J'espère.
Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à BPM de Bouscapé pour écouter les anciens épisodes et pour guetter les prochains. À bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.